Morning Edition from NPR News.
Let me clean some people house.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, bienvenue en Espagne. Le pays vote dimanche et risque de se retrouver aussi divisé qu'il l'est aujourd'hui. Un vote qui parle d'Espagne, qui parle surtout de Catalogne. Il y a un climat électrique là-bas et on y vient tout de suite. Le bruit du monde étant en Afrique du Sud. Savez-vous comment on fait de la politique parfois là-bas et spécialement dans les townships? On chante, on danse et c'est extrêmement sérieux. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars que ça se passe avec Amélie Perrier qui nous parle de vaches au Qatar et nous emmène sous les gondoles à Venise. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Angélique Bois nous parlera de Nutri-Score en Europe. Et puis 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, l'OTAN donc en état de mort cérébrale, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Et après alors, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Christophe Barret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste d'Espagne. Vous avez écrit notamment La guerre de Catalogne. C'était aux éditions du CERF, c'était l'année dernière. Mmh. On vote donc, je le disais, ce dimanche, le 10 novembre, en Espagne. On entend beaucoup dire que c'est une élection pour rien, puisqu'il n'y a aucune chance de trouver une majorité. On va y revenir. On a surtout le sentiment que c'est vraiment une élection catalane, pour le coup, puisqu'on ne parle que de ça. Le vrai enseignement et la vraie lecture, dimanche soir, ce sera ça, non?
Oui, effectivement, on peut imaginer, on peut penser que Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, a peut-être fait un mauvais calcul en laissant peut-être pourrir les négociations avec Podemos, qui aurait permis d'avoir un gouvernement de gauche en Espagne, et puis en laissant comme ça les nouvelles élections s'organiser au moment même où tombe la sentence du procès donc des indépendantistes, qui a duré plusieurs mois, qui les a condamnés à de lourdes peines, 8 à 13 mois, et 8 à 13 années, pardon.
Et qui a entraîné les manifestations,
excusez-moi.
Je vous en prie. Les manifestations qu'on a vues ces derniers jours.
On a suivi des manifestations qui font monter une droite et une extrême droite. Il y a comme ça un recentrage à droite du pays de la vie politique espagnole qui n'était pas attendu, que personne n'attendait.
Alors, puisqu'on y restons un peu en Catalogne, qu'est-ce qui change électoralement là-bas? C'est-à-dire, est-ce que les indépendantistes ont pris de l'étoffe avec ce qui s'est passé ces derniers jours, ou on va se retrouver là aussi, au fond, parce que la Catalogne est assez, à l'image de l'Espagne au sens large, dans une espèce de porte cochère où rien ne changera par rapport à la situation d'aujourd'hui, une espèce de 50-50 mal fagoté, en fait?
Alors, il faut voir effectivement si les indépendantistes vont obtenir une majorité de députés en Catalogne, ce qui serait un signe de plus de la prégnance de cette volonté d'indépendance qui est avérée pour plus de 2 millions de personnes à peu près, 2 millions d'habitants. Il y a aussi beaucoup de divisions entre ces indépendantistes.
C'est ce que j'allais vous dire. Ils sont trois, peut-être quatre d'ailleurs, avec le parti d'extrême gauche qui
on
s'est rajouté
dessus. Voilà, qui pour la première fois se présente aux élections nationales espagnoles, alors que c'est une gauche marxiste qui ne voulait pas avoir affaire aux affaires d'État, mais nécessité faisant loi, elle se présente. Il pourrait donc y avoir pour la première fois un ou deux députés de la coupe à Madrid. Le garde Puigdemont, qui est toujours donc à Bruxelles, a appelé à ce qu'il y ait la formation d'un groupe commun au Parlement, enfin au Congrès des députés à Madrid. Simplement, il y a la gauche indépendantiste, Esquerra Republicana, qui a son président, donc qui est l'un de ceux qui est le plus lourdement condamné, qui elle veut revenir un petit peu dans la voie du dialogue et qui se fait un petit peu dépasser aussi par le président de la Généralité, Generalitat, je parle à l'ancienne, en me référant à l'ancienne France aussi. C'est pour rappeler un peu toutes les racines
donc
anciennes
le gouvernement
de ces institutions
catalan, hein, la
qui ont été
reconnues
au moment de la transition. Ouais. C'est tout le problème est là. Enfin, le problème, une des racines est là. Et donc, cette Esquerra Republicana, elle veut un peu jouer le rôle de la légalité, mais c'est incroyable. On a vu le chef de file d'Esquerra Republicana se faire huer, par exemple, dans les manifestations très violentes d'il y a quelques jours à Barcelone. Donc, on ne sait pas exactement, voilà, chacun va compter ses forces aussi à Barcelone. Ce qui compte, en fait, effectivement, ils n'ont plus de stratégie, les indépendantistes. On se dit, donc, face à l'échec du process qui avait abouti à ce référendum il y a 2 ans, mais ils gagnent sur le terrain culturel. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on est dans un paysage où, malgré les violences, ils ont réussi à donner un sens qui leur est favorable au mot démocratie, référendum, souveraineté. Il y a une majorité des habitants de la Catalogne qui sont pour qu'il y ait un référendum d'autodétermination, ce dont on ne veut pas ailleurs. C'est ça leur victoire, c'est une victoire culturelle.
La coupe dont vous parliez à l'instant, le parti d'extrême gauche, est-ce que ça re-radicalise encore plus tout le monde au fond? Est-ce qu'ils jouent les faiseurs de rois?
On ne sait pas exactement. Alors il y a un autre procès qui est à observer en ce moment, c'est celui de membres de ces comités de défense de la République qui avaient vu le jour au lendemain du référendum et d'organisations semi-clandestines comme ce tsunami démocratique.
Qui veut faire une manifestation la veille d'ailleurs.
Et puis donc, et là ce matin, la radio publique espagnole révélait que certains des membres de ces CDR qui avaient été arrêtés parce qu'on les menace de préparer des attentats avaient aussi pour projet d'occuper le Parlement de Catalogne. Et se serait joint à eux, si l'affaire avait réussi, le président de la Généralité, donc Quim Torra, qui est le numéro 2 de Puigdemont, donc la droite indépendantiste, mais qui est sur une ligne un peu plus radicale aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a la tentation à Madrid de criminaliser vraiment le process et de déstabiliser ainsi.
Et y compris de la part de Pedro Sánchez, dont on a vu qu'il s'était aussi un peu crispé sur la question quand même. Alors, on a bien compris qu'il était tanné par la droite, mais est-ce que c'est au dernier débat qu'il veut interdire toute forme de référendum illégal?
Exactement.
Donc ça veut dire l'inscrire dans le code pénal. Ça veut dire aussi faire taire ou sinon en tout cas atténuer un peu la télé publique catalane qui est effectivement pro-indépendantiste.
Tout à fait,
là aussi, il y a crispation quand même de la part de Pedro Sánchez.
Exactement, au point même qu'il en arrive à incommoder le Parti Socialiste catalan, parce que l'Espagne est un pays très décentralisé, il y a un Parti Socialiste catalan, qui est un parti frère du Parti Socialiste, mais qui a imposé finalement au dernier moment, après ce virage un peu jacobin de Pedro Sánchez, qu'il y a une allusion à des congrès du Parti Socialiste qui, eux, faisaient référence au fédéralisme, par exemple, pour que les constitutionnalistes, comme on dit, ceux qui tiennent à l'unité de l'Espagne, aient encore quelques voix en Catalogne. Les seuls qui prônent vraiment le dialogue, c'est Ada Colau et donc la maire de Barcelone et puis le mouvement qui l'entoure et qui est allié avec Podemos et Pablo Iglesias.
Alors il faudra bien aller voter dimanche, malgré tout, aller voter dans quel état d'esprit, aller voter. Est-ce qu'on a envie d'aller voter quand on est espagnol aujourd'hui, sincèrement?
Alors la gauche s'était mobilisée au mois d'avril contre l'extrême droite face à ce projet d'extrême droite qui monte. On va voir ce qui va se passer. On craint aussi des violences en Catalogne. Elles ne remettront pas en cause le bon déroulement de la journée électorale, mais ça pourrait encore faire quelques images qui soient contre-productives pour tout le monde et qui radicalisent un petit peu le débat. Cette absence de dialogue est ce qui peut le plus nous inquiéter.
Christophe Barré, je vous propose d'aller faire un rapide aller-retour justement dans les rues de Madrid, à la fois dans les quartiers les plus riches, mais aussi dans les quartiers populaires. C'est ce qu'a fait Mathieu de Taillac pour voir justement si ces 4e élections législatives en 4 ans continuaient à motiver les gens. Rien n'est moins sûr, écoutez.
Première promenade, Calle Serrano, dans le quartier cossu de Salamanca, de Madrid, bijoutier, marque de luxe, c'est tout simplement la rue la plus chère d'Espagne. Javier, comptable, 37 ans, répond avec le sourire, mais sans s'arrêter de marcher. Qu'est-ce que cela fait de voter à 4 élections législatives en 4 ans?
C'est un peu fatigant, sincèrement. Ça commence à faire un moment que ça dure et c'est frustrant de voir que les hommes politiques ne débloquent pas cette situation. Je fais partie des indécis, je ne sais pas encore. J'hésite entre Ciudadanos et le PP.
Le centre ou la droite, c'est un peu le même dilemme pour Mariluz, 58 ans, qui travaille dans la gestion.
Ils ne répondent qu'à leurs intérêts personnels, à rien d'autre. Ils ne veillent pas à l'intérêt général, sinon ils se seraient mis d'accord. Je trouve que c'est une honte qu'il n'ait pas formé de gouvernement alors qu'il pouvait le faire. Je pensais ne pas voter, mais je crois que finalement je vais le faire. Les sujets les plus importants pour moi, c'est l'unité nationale. C'est fondamental. Et ensuite, l'économie.
Changement de décor, Vallecas, un quartier populaire au sud de Madrid, des immeubles de briques rouges, des menus du jour à 9 euros, 7 le demi-menu, et l'école primaire Don Quichotte, où Sylvia, informaticienne de 43 ans, est venue chercher son fils.
Je crois qu'ils nous traitent comme des cons, et on n'est pas des idiots. Je suis très très en colère. Ils apprennent des phrases par cœur, qu'ils nous répètent sans fin, et ils croient qu'ils vont nous convaincre à force de le répéter. Ils mentent, ils se contredisent. Aujourd'hui, ils disent une version, un mois plus tard, ils disent le contraire. Je ne vais voter pour aucun des partis pour lesquels j'avais voté lors d'autres élections. J'ai voté pour Podemos, j'ai voté pour le Parti Socialiste. Cette fois-ci, je vais voter pour Íñigo et Rejón.
L'ex numéro 2 de Podemos a quitté la formation de gauche radicale, promet d'unir le camp progressiste et plafonne à 4 ou 5% des intentions de vote. Tout aussi désabusée, Mercedes, infirmière, la cinquantaine, veut-elle aussi tenter un nouveau vote, mais pas le même.
Il joue aux échecs pour voir qui gagne, qui a le plus de pions. Mais il joue avec les gens. Parce que pendant que quelques-uns progressent et s'enrichissent, les gens simples, on a énormément de mal à joindre les deux bouts. Le 25 du mois, on n'a pratiquement plus rien. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est de tester de nouveaux partis. Et le seul qui a dit des choses importantes, c'est Vox. En Espagne, on a un problème, un virus. C'est l'immigration sans contrôle. Moi, je suis favorable à une immigration, mais de gens qui viennent pour travailler.
Estoy a favor de la immigration trabajadora.
D'un discours réactionnaire de vieille droite, Vox est passé à des propositions d'extrême droite populiste, très hostile à l'immigration et à l'indépendantisme catalan. L'objectif affiché est de conquérir un électorat populaire qui lui a échappé aux dernières élections.
C'est Mathieu de Taillac qui signe ce reportage. Christophe Barret, on entend le ras-le-bol, on entend qu'on n'en peut plus de voter sans savoir où on va, et puis on entend monter les extrêmes, notamment Vox. Est-ce que c'est ça qui tirera les marrons du feu? Pas suffisamment probablement pour peser énormément, mais en tout cas on les voit grimper, ces Espagnols de Vox.
Exactement. Vox a même est un petit peu le seul qui, en ce moment, qui arrive à articuler un discours autour de l'idée de nation, de souveraineté. Podemos avait eu le vent en poupe un petit peu avec cette idée-là. Mais il a un petit peu réintégré les pénates de la gauche du Parti Socialiste, hein. C'est l'héritier aujourd'hui du Parti Communiste Espagnol. Ce qui fait que, Íñigo Errejón, dont on vient d'entendre parler.
L'ancien numéro 2 de Podemos.
Qui était l'idéologue, qui est un héritier d'Ernest Laclau, un ami de Chantal Mouffe, qui milite pour un vrai populisme de gauche, essaie encore de tenir sur ce créneau-là, mais il le fait difficilement parce que c'est une toute nouvelle formation alors que le Parti Socialiste, voilà, lui apparaît comme bien plus crédible en matière de pragmatisme.
Si on regarde pragmatiquement, j'allais dire, ce que disent les sondages aujourd'hui et ce que semblent dire ces résultats-là, on voit bien que même si les socialistes l'emportent avec moins de suffrages que la dernière fois, il y a de toute façon pas assez de monde à côté à gauche pour arriver à faire une alliance. Ils se sont disputés avec Podemos. Ciudadanos, les centristes ont décidé de passer plutôt du côté de la droite aujourd'hui.
Et puis leurs effectifs au Parlement risquent de fondre comme neige au soleil.
Également. Sauf que du côté de la droite également, on n'a pas assez de monde, y compris en s'alliant avec Vox. Qu'est-ce qu'on fait?
On ne peut pas exclure de nouvelles élections, à moins d'une abstention technique, comme on dit en Espagne, que quelques députés du Parti Populaire, il en faudrait une quinzaine pour que le bloc de gauche ait la majorité. Les indépendantistes peuvent se raviser aussi et dire, mieux vaut avoir affaire au Parti Socialiste quand même qu'à une droite qui s'appuie sur 60 députés de Vox, par exemple. Ça, c'est le sondage aujourd'hui publié à Andorre, 58. Les jeux ne sont pas faits. On va au blocage, en fait. Ça, c'est annoncé.
Est-ce que c'est totalement inenvisageable d'imaginer une coalition qui serait très baroque entre droite et gauche?
Alors, une grande coalition, on en parle. Le Parti Socialiste pourrait y perdre quelques électeurs parce que Pedro Sánchez a essayé de charger un petit peu Pablo Iglesias et Podemos, mais aux prochaines élections, ça pourrait jouer en faveur de Podemos et le Parti Populaire à droite, s'il appuyait le Parti Socialiste, eh bien donnerait encore du grain à moudre à l'extrême droite qui dirait voilà, c'est cette droite lâche qui cède au Parti Socialiste. Donc là aussi, tout le monde voudrait qu'elle ait lieu, mais elle n'a pas lieu. Ciudadanos aurait pu jouer ce rôle-là au mois d'avril, il n'a pas voulu.
Est-ce que les textes, pardon de vous poser la question comme ça, Christophe Barret, mais est-ce qu'il y a des textes qui disent quelque chose où à un moment il faut s'arrêter de faire des élections tous les ans,
non,
très sérieusement?
Pedro Sánchez a proposé là qu'on change la constitution et qu'on inscrive que le roi soit obligé de nommer celui qui arrive le premier en tête des élections. On a même entendu Felipe González à un débat, donc l'ancien premier ministre socialiste, à un débat avec Mariano Rajoy, l'ancien premier ministre de droite, dire qu'après tout, pourquoi pas donner plus de pouvoir au roi aussi pour qu'il puisse jouer ce pouvoir, cette fonction arbitrale. L'Espagne s'interroge vraiment sur la manière d'en sortir.
Est-ce que l'Espagne s'interroge aussi au fond sur ce qu'elle est quand elle est sortie du franquisme, c'est-à-dire sur cette espèce d'état-nation qu'ils ont essayé de créer tout en instillant ces 17 autonomies? Est-ce qu'on se dit aujourd'hui que c'est ce modèle-là qui est en train de craquer de toutes parts?
Exactement. Il y avait eu donc, côté indépendantiste bien sûr, il y a l'idée que le pacte a été rompu parce qu'on a on a empêché qu'un statut donnant une grande autonomie voit le jour. Et puis, à l'extrême droite, on réussit à articuler un discours national. La gauche a hésité à utiliser les termes de souveraineté, de souveraineté nationale. Pablo Iglesias et Íñigo Errejón très habilement parlaient de patrie en disant la patrie, ben, c'est les services publics, c'est notre modèle social, mais dans un contexte qui est celui-là, avec aussi une identité nationale qui était forgée en partie par la droite espagnole, et bien qui s'est toujours appuyé sur un ennemi intérieur, hein, c'était les Rouges au XXe siècle, c'était aussi été les indépendantistes, et bien se retrouve comme un poisson dans l'eau aujourd'hui pour défendre ses valeurs.
Est-ce que ça veut dire, ce serait la dernière question, est-ce que ça veut dire que il est trop tard pour faire nation, pour refaire nation en Espagne aujourd'hui ou pas ?
Il le faudrait. Je pense que c'était un petit peu c'est un des rendez-vous manqués de Podemos il y a quelques années, dans un contexte européen effectivement qui fait qu'on parle aussi aujourd'hui de cette Espagne du vide, comme on parle d'une France périphérique chez nous. Christophe Guillouis, l'auteur du livre qui porte ce titre, est traduit en Espagne. On parle de l'Espagne vaciada, de l'Espagne vidée. Et là, Abascal, le chef de Podemos, de Vox, excusez-moi, populisme de droite, a fait la tournée des petites villes justement en ce moment. Il a très bien compris où étaient les électeurs. Il a très bien vu.
Et avec ce discours-là, Christophe Barret, historien spécialiste de l'Espagne, tiens, je redis, la guerre de Catalogne, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
Le 18-20, la suite, ça se passe en Afrique du Sud où on chante et danse pour faire de la politique, notamment dans les townships, une tradition d'avant l'apartheid mais qui perdure aujourd'hui. Le bruit du monde sous les radars, Amélie Perrier, ce sont des vaches qataries.
Oui, des vaches en plein désert, dans une ferme, ça marche tellement bien que la ferme est introduite en bourse.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec Angélique Boin, une descente dans les supermarchés au fond ce soir.
Oui, on va traquer les produits qui ne sont pas étiquetés Nutri-Score à une opération commando aux côtés d'eurodéputés.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir.
Salutations
Jean-Marc.
Du soir. Car
si l'OTAN est en état de mort cérébrale, qu'est-ce qu'on fait ? On le quitte ? C'est l'idée d'Emmanuel Macron ?
Oui, moi je réponds, lève-toi OTAN et marche.
Allez, à tout à l'heure tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe avec NDDO par le Canada et un peu le Nigeria aussi. He needs me.
And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Like a dime a dance, I'll take a chance, I will, because he needs me. No one ever asked before, because they never needed me. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, 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 he needs me.
Le bruit du monde ce soir est en Afrique du Sud, c'est pas du bruit, on va danser ce soir, mais attention, pas seulement pour s'amuser ou pour se défouler, là-bas en Afrique du Sud, la danse est historiquement un outil politique et contestataire. Elle a été utilisée avec le chant pour combattre le pouvoir blanc au temps de l'apartheid, elle a aussi permis à des générations de se construire une identité propre au township dans ces quartiers où les populations noires ont été placées de force. Aujourd'hui encore, cette culture persiste et le geste, la pantomime, le rythme permettent de faire passer des messages et de se réinventer. C'est Claire Bargelès qui nous emmène et c'est formidable.
Manta. Manta. Les émeutes embrasent les townships à la fin des années 70. Des jeunes descendent dans la rue, le poing levé, la tête baissée. Ils déferlent face à la police en chantant et en dansant de façon frénétique sur un rythme militaire. C'est le Toy Toy, cette danse de la contestation que la chorégraphe Nelisiwe Kaba connaît bien.
En grandissant à Soweto dans les années 80, j'ai baigné dans cette culture. C'est un mélange de marche et de course. Et en même temps, il faut lever les genoux. Cela vous donne le sentiment que vous allez tout conquérir. Et c'était bien, mais cela se finissait souvent dans la violence. Et à la maison, on nous interdisait d'y participer.
Cette danse aurait été inspirée par les camarades de lutte du Zimbabwe voisin. Le Toy Toy permet de mobiliser l'énergie pour affronter la police et reprendre symboliquement le pouvoir, selon Bekizizwe Peterson, professeur de littérature africaine à l'université du Witwatersrand.
Une partie de l'oppression et de l'exploitation reposait sur la volonté de contrôler le mouvement des populations noires. Par exemple, avec les lois sur la maîtrise des déplacements, il s'agissait de définir dans quel espace et à quelle heure les noirs étaient autorisés à circuler. Les gens ont alors commencé à utiliser la sphère publique pour exprimer leur opinion, leur mécontentement.
Cette gestuelle de la résistance reste aujourd'hui un héritage. Chaque manifestation a son toy-toy, parfois même quand l'objet de la colère est le Congrès national africain lui-même, désormais au pouvoir. À tel point que si l'Afrique du Sud possède officiellement 11 langues, le toy-toy est parfois considéré comme étant la 12e. Pour Tamine Kosi, habituée des rassemblements avec son association Right to Know, qui se bat pour la liberté d'expression, il s'agit toujours de se réapproprier l'espace.
Alors voilà, on sauterait comme ça, en levant le poing et en allant d'un côté à un autre. C'est presque un jogging, mais on peut aller en diagonale, sur les côtés, en haut, en bas. C'est juste imprévisible. On utilise symboliquement notre corps pour amplifier notre voix et faire entendre quelque chose. C'est montrer que l'on est tous ensemble dans ce combat.
Mais il n'y a pas que dans les manifestations qu'on peut se servir de son corps pour exprimer ses idées. C'est aussi ce qui se cache derrière une autre danse des townships, le pantsula. Dans le quartier de Katlehong, on peut entendre les pieds des danseurs qui martèlent le sol. Wuzin Doyi fait répéter sa troupe sans relâche.
Plutôt que de vous expliquer, je vais vous faire entendre. C'est ça le pantsula.
Une danse unique, mélange de rythmes traditionnels, de l'indie hop et un lointain cousinage avec le hip-hop. Le tout repose sur un jeu de jambes d'une rapidité impressionnante et le corps permet de recréer des situations de tous les jours.
Il y a des mouvements pour faire comme si on se battait, comme quand on résistait contre l'apartheid. On jette des pierres et on court se cacher, et ça donne des acrobaties. Tout ça est chorégraphié pour devenir des mouvements et une danse.
La compagnie de Wuzi part souvent en tournée dans le monde entier, mais il n'oublie jamais l'origine de cette danse qui raconte le quotidien des quartiers dont il est issu.
Si vous pouvez remonter au début des années 50, vous trouverez la trace du pantsula dans le quartier de Sophiatown. Le pantsula, c'est une manière de vivre, c'est une mode, un langage, une politique de la survie. Ça a toujours été un moyen de dire « on ne s'identifie pas à ce que vous souhaitez nous imposer ». Et c'est encore comme ça qu'on utilise le pantsula aujourd'hui, pour parler d'un sujet en particulier ou poser des questions, mais sans dire un mot.
Longtemps chasse gardée des hommes, le pantsula s'ouvre désormais aux jeunes femmes comme Elma Motluenia, danseuse de 23 ans.
La vie dans les townships est dure, alors il fallait que je devienne forte. Et à chaque fois que je danse le pantsula, c'est comme si j'affirmais qui je suis. Je deviens plus courageuse chaque jour grâce à ça.
Depuis, la créativité des townships ne cesse de donner naissance à de nouveaux genres portés par la house music. La danse aujourd'hui est plus un prétexte pour s'amuser, mais c'est toujours une façon de réinventer l'identité du ghetto et de partager une certaine fierté d'en être issu. Sinetemba Maté est spécialiste de l'isboudjoua, une danse cousine du pansula.
C'est assez particulier car ça vient de chez nous, c'est né dans nos rues. C'est une façon de communiquer entre nous. C'est ce moment où on est fier de notre identité, où on est entre nous. Et c'est à ce moment qu'on ne fait qu'un.
Cette riche culture de la résistance à la société dominante continue donc à vivre chez les danseurs des townships d'aujourd'hui, prêts à s'affirmer par leur créativité.
Claire Barjolès pour le reportage en Afrique du Sud. Grand merci et à très vite. Le bruit du monde, la suite, ça se passe sous les radars et c'est tout de suite avec Amélie Perrier. Voilà.
Bah oui.
Bon, on ne sait pas si elles sont vraiment du Qatar, ces vaches qu'on entend, mais en tout cas, l'or blanc du Qatar, c'est bien le lait de vache.
Oui, au Qatar, en plein désert, petit émirat du Golfe Persique, je vous le rappelle, où l'on n'imagine pas vraiment de vertes prairies et des ruminants broutant tranquillement. Mais le pays a réussi cet exploit. Et aujourd'hui, à la télé, vous voyez ce genre de pub. Baladna, oui, une pub pour du lait aromatisé de la marque Baladna. Baladna, c'est une immense ferme à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, la capitale. Elle finalise ce soir son introduction en bourse, car c'est une affaire très juteuse et très récente aussi. Il y a 2 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle compte 18 000 vaches rafraîchies par des ventilateurs géants. En fait, la ferme Baladna a été créée en réaction à l'embargo imposé au Qatar en 2017 par ses voisins du Golfe. Accusé de favoriser le terrorisme et surtout de soutenir l'Iran, le grand ennemi régional, le Qatar s'est retrouvé mis au ban. Les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques et commerciales. Conséquence, grosse pénurie de lait et de yaourt dans les supermarchés qataris. Alors l'Émirat a eu l'idée de faire venir par avion des vaches laitières pour créer une ferme dans le désert. L'État subventionne toujours les terres mises à disposition. Baladna est un énorme succès aujourd'hui. Elle assure 90% des besoins du pays en produits laitiers frais. La ferme vend jusqu'à ce soir les dernières actions pour l'introduction à la bourse de Doha. Une opportunité financière pour les investisseurs, entreprises et particuliers. Une opportunité aussi de prouver son patriotisme et sa résistance à l'embargo des voisins.
Des affrontements entre chrétiens et musulmans en Afrique, on le voit ça dans de nombreux pays.
Mais pas souvent au Malawi, où les communautés cohabitent plutôt bien. Le Malawi, petit état du sud-est de l'Afrique, d'où l'émotion cette semaine quand on a assisté à ce genre de scène dans l'est du pays. Alors c'est tourné au portable dans le district de Mangochi, des altercations près d'une école, certains applaudissent, affrontements violents hein, parfois à cause du refus d'une école anglicane, chrétienne donc, d'accueillir des jeunes filles portant un voile musulman. Dans le district de Balaka dans le sud-est, 2 personnes ont dû être hospitalisées après l'attaque à coups de pierre d'une mosquée. Le calme est revenu depuis, disent les autorités, mais l'on s'étonne d'une telle confrontation dans un pays où le gouvernement interdit toute discrimination envers les enfants portant des signes religieux. Au Malawi, sur les 19 millions d'habitants, on estime que les 2/3 sont chrétiens. Les incidents avec les autres communautés sont très rares. Sauf que le pays est en pleine période de soudure. Vous savez ce que c'est la soudure, Fabienne ?
Non.
Eh bien, ce sont ces mois avant la prochaine récolte au printemps, période où l'on a consommé toute la précédente récolte. Au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la planète, c'est une période particulièrement critique où la famine guette, une période qui exacerbe les tensions politiques, sociales et en fait naître de nouvelles religieuses, donc aujourd'hui.
Alors, on termine, Amélie, par une escapade à Venise.
Oui, mais alors là, je ne vais pas vous emmener dans une gondole, c'est un petit peu trop cliché. Hein. Je vais vous emmener sous les gondoles, en fait. Les gondoliers, ceux qui pilotent les bateaux pour les touristes, ont plongé ces derniers jours, vêtus de scaphandres, dans le Grand Canal. Ils sont allés chercher tous les détritus qui s'amoncellent au fond, loin de la carte postale de la cité romantique. Ils ont trouvé des vélos, des machines à laver ou encore des téléviseurs. Les gondoliers ont fait ça gratuitement pour cette ville qui nous a tant donné, ont-ils expliqué, et parce qu'ils n'en peuvent plus de naviguer entre les déchets. Ils ont plongé 6 heures en pleine nuit. La première fois, ils ont remonté 500 kilos de déchets. La fois suivante, 700 kilos. Il y a encore de quoi faire. Et surtout sensibiliser les touristes à respecter un peu plus la Sérénissime et son grand canal.
Voilà, parfois c'est triste. Venise, Amélie Perrier sous les radars, merci beaucoup. On file à Bruxelles dans un instant, en passant par le Brésil. Après tout, c'est un tout petit détour. Hein. Lucas Santana et son premier amour.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Pensa assim, hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior, e os nossos filhos cada vez mais lindos.
France Inter, la direction Bruxelles, comme tous les jeudis, où nous attend Angélique Boin.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Bonsoir à vous Angélique, rebonsoir. Plus tôt ce matin, vous avez fait les rayons des supermarchés avec des députés européens.
Oui, une poignée d'élus hein, de tous les bords politiques qui s'étaient donné rendez-vous dans la supérette Deleuze. Hein, c'est juste en face du Parlement européen. C'est un peu le carrefour belge avec ses grandes surfaces en périphérie et ses mini-magasins en ville. Eh bien, que faisaient ces élus? Ils scannaient en fait les produits alimentaires qui n'affichent pas le logo Nutri-Score. Et en fonction du résultat, ils leur collaient eux-mêmes, bien en vue, une étiquette avec ce logo et la lettre correspondant à la valeur nutritionnelle de l'aliment. Autant vous dire que sur certaines boîtes de cornflakes hein, bien connues, tout était en E, c'est-à-dire très mauvais pour la santé. Nutri-Score, on le rappelle, c'est ce logo avec des lettres et des couleurs posées sur certains produits et pas sur d'autres. Si on veut savoir ce qu'on mange, il faut, s'il n'y a pas Nutri-Score, retourner la boîte, la scanner avec une application installée sur votre propre smartphone. Les eurodéputés en goguette ont monté cette opération hein, ce matin pour mobiliser l'opinion sur la pétition qui a été lancée par des associations de consommateurs en Europe pour rendre obligatoire Nutri-Score dans les 27 pays de l'Union, rendre obligatoire ce logo qui informe et qui protège, disent-ils, la santé de chacun.
Mais alors, Angélique, et pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire?
Eh bien, parce que la législation européenne actuelle ne l'impose pas. Elle permet à des États d'adopter officiellement le logo, hein, comme ça a été fait en France, qui est assez en avance sur le sujet, mais sans pouvoir l'imposer aux industriels et aux distributeurs. C'est facultatif, en fait. Et en France, seuls 25% des produits sont étiquetés, selon l'eurodéputée verte Michèle Rivasi, hein, qui était là ce matin. Les aliments circulent, vous le savez, librement dans l'Union. C'est le marché unique, avec des règles d'étiquetage uniques. Et pour que cela change, il faut que la Commission européenne s'en saisisse. D'où la pétition qui est hébergée sur son site et qui est une initiative citoyenne. Si elle recueille 1 million de signatures dans au moins 7 États, cela permettrait de relancer le cycle législatif sur le sujet. Car en 2011, les parlementaires européens avaient déjà poussé pour que cela soit décidé à l'échelle de l'Union, mais ils s'étaient heurtés au lobby. Ce qui change aujourd'hui, selon la directrice générale du Bureau européen des consommateurs, c'est le nombre d'études qui indiquent que Nutri-Score est fiable. Je vous propose d'écouter Monique Goyens.
C'est important de dire que pour les organisations de consommateurs, c'est vraiment le meilleur système qui existe à l'heure actuelle. C'est une vraie aide pour le consommateur parce qu'en un coup d'œil, on comprend quelle est la valeur nutritionnelle et surtout le caractère sain ou non d'un aliment. Le Nutri-Score va être un élément de choix du consommateur parce vous pouvez le tester vous-même, vous vous promenez dans un rayon, vous allez vraiment faire un test pour savoir je vais préférer le D au E ou le A au B. Et donc, le consommateur va faire des choix et va en fait ça va encourager les entreprises à changer de catégorie de score et ça va les encourager à reformuler leurs produits, à mettre moins de sel, moins de sucre, moins de matières grasses, tant que ce soit possible, bien sûr.
Voilà, c'est donc l'objectif. Monique Goyens, dont le groupement représente 45 associations européennes nationales de défense des consommateurs et qui espère bien d'ailleurs que la prochaine Commission européenne se saisira de ce sujet avec ou sans les signatures.
Allez, rien à voir. Angélique, on part pour le Luxembourg qui s'inquiète pour son personnel de santé.
Oui, car près de 2/3 des professionnels de santé qui travaillent au Grand-Duché sont étrangers, Fabienne. Et si l'on isole juste les médecins, 1 sur 2 seulement a la nationalité luxembourgeoise. C'est le résultat d'une étude rendue publique le mois dernier qui donne en fait des sueurs froides au ministre de la Santé. Le pays est extrêmement vulnérable et dépendant des décisions politiques et économiques des pays frontaliers, a déploré publiquement Étienne Schneider. Toute initiative en France ou en Allemagne, par exemple, qui viserait à rehausser les salaires des soignants, engendrerait une grave crise sanitaire, écrit l'auteur de cette étude, qui ajoute néanmoins que le recrutement est de plus en plus difficile en raison parfois du coût du logement. Le ministère annonce un plan d'action nationale pour faire face à cette situation de dépendance qui est jugée préoccupante dans le pays.
Angélique Boin, depuis Bruxelles tous les jeudis, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ça s'appelle une attaque en règle dans un entretien au magazine britannique The Economist. On en parlait dans le 18h. Emmanuel Macron estime que l'OTAN est en état de mort cérébrale. La formule est spectaculaire, mais pour vous, ça ne veut pas dire pour autant que le président français ira au bout de son raisonnement sur le sujet. Par exemple, en retirant la France du commandement militaire intégré de l'organisation. Et c'est votre Monde à l'envers.
Oui, alors dans les tontons flingueurs, on appellerait ça un bourre-pif en pleine paix. Le président français n'y va pas de main morte. Il a le mérite de mettre les pieds dans le plat. À un mois, en fait, d'un sommet de l'OTAN à Londres qui s'annonce houleux, il choisit donc un hebdomadaire britannique. C'est pas un hasard pour y aller franco. Les formules se succèdent, en fait, dans l'entretien. Il y a effectivement mort cérébrale, vous le disiez, mais aussi le bord du précipice, absence de coordination stratégique avec les États-Unis. Donc, sur la forme, c'est du lourd. Et sur le fond, le diagnostic est juste. Emmanuel Macron laisse entendre que Donald Trump n'en fait qu'à sa tête et qu'il ne consulte pas ses alliés. C'est vrai. Et d'ailleurs, le président américain l'assume. Il est le premier depuis un certain temps maintenant à dénoncer ce qu'il appelle l'obsolescence de l'OTAN. Emmanuel Macron laisse également entendre que l'intervention de la Turquie, membre de l'OTAN, contre les Kurdes en Syrie, nos alliés contre le terrorisme, sème la zizanie. Là encore, c'est exact. L'OTAN ne régule pas ses membres, conclut le président français. C'est QFD. Déduction d'Emmanuel Macron, il faut donc muscler l'Europe de la défense, sous-entendu comme une alternative à l'OTAN, faute de quoi l'Europe, je cite, sera menacée de disparition géopolitique. Là encore, ça fait sens, tout ça est pertinent et fort bien dit.
Alors, sauf que c'est que du discours, c'est que des paroles.
Il y a un peu de ça. Vous connaissez la devise, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Eh bien, Paris attaque sur le sujet parce qu'en fait, Paris est assez isolé sur le sujet. Ça va même plus loin, dans plusieurs capitales européennes, la France est perçue comme arrogante, voulant imposer sa politique de défense sous les apparences d'un intérêt supérieur européen. Sur ces questions de défense, il n'y a pas d'unité européenne. Il y a d'abord des pays qui veulent continuer à bénéficier du parapluie américain dans le cadre de l'OTAN, la Pologne, les États baltes, la Finlande. Tout cela ne comprennent pas par-dessus le marché la volonté d'Emmanuel Macron de renouer le dialogue avec Moscou. Même chose en gros au Royaume-Uni où le Brexit pousse à un rapprochement avec Washington. Alors vous allez me dire, L'essentiel, c'est de s'entendre avec notre partenaire privilégié, c'est-à-dire l'Allemagne. Sauf que là aussi, c'est quand même un peu enlisé. Berlin ne veut pas participer à un groupe d'intervention commun au Sahel. Les chantiers du nouveau char et de l'avion du futur avancent à la vitesse de l'escargot. Il y a des problèmes de financement, de compatibilité entre les industriels. Et je vous parle même pas du dossier ultra sensible des ventes d'armes. On sait à quel point Paris et Berlin ont des positions éloignées sur ce thème. En fait, il n'y a pas d'entente en Europe pour définir l'ennemi prioritaire d'un projet commun de défense. Est-ce que ça serait le risque terroriste, la menace militaire russe, la cyberguerre à la chinoise? Donc, muscler l'Europe de la défense, ça reste une belle formule, mais c'est une coquille quasiment vide.
Donc, retour à la case départ, l'OTAN faute de mieux.
En gros, oui, même s'il y a des désaccords stratégiques majeurs en son sein. Oui, c'est vrai, la finalité de l'OTAN est devenue floue, mais pour l'instant, il n'y a rien à mettre à la place, pas de plan B pour se protéger. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'outil fonctionne. L'OTAN a même beaucoup progressé, ça veut dire une efficacité croissante dans l'organisation interarmée entre les différents pays membres. Et les militaires français ne sont pas les derniers à y être investis. Ils y occupent des postes à haute responsabilité. On peut citer par exemple le général André Lanata, qui est désormais l'un des principaux commandants militaires de l'OTAN. Alors oui, c'est vrai, l'OTAN reste une organisation dominée par les États-Unis, mais c'est peut-être là où les choses doivent changer. C'est peut-être d'ailleurs davantage dans ce sens-là qu'il faut lire la formule d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale. Peut-être que le président souhaite, avec cette phrase, créer un électrochoc, réanimer le patient, le ramener à la vie. Ça voudrait dire pour les Européens, non pas abandonner l'OTAN, mais au contraire s'y investir davantage, pour y peser davantage. Il y a un siècle, l'ancien président américain Theodore Roosevelt avait eu cette formule. Il faut parler doucement, mais en brandissant un gros bâton. Plutôt que l'inverse, parler fort sans posséder le bâton.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. On reste ensemble comme tous les soirs, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne à tout